Il est 12h à Kinshasa.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Pascal Massirika.
Les titres de cette édition d'information, coup d'envoi ce jeudi de l'état de siège en Ituri, selon de nombreux observateurs. Parmi les défis à relever par le nouveau gouverneur, il y a notamment la collaboration entre les civils et les FRDC dans cette province où des groupes armés sont des tendances communautaires. L'ancien gouverneur du Nord Kivu appelle la population à soutenir les nouvelles autorités provinciales. Karline Zanzou Kasivita invite la population du Nord Kivu à permettre aux autorités militaires de restaurer la paix. Notre invité, c'est le directeur d'exploitation de la SNCC, Marc Manyanga, affirme que les matériels pour la construction de l'aéroport de Bipemba en Mbujimayi dans le Kasaï oriental sont en route vers Mweneditu. Madame, messieurs, bonjour. Avant d'aller plus loin, partons pour Kalemie où l'Assemblée provinciale du Tanganyika a destitué ce jeudi matin le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. 13 députés provinciaux sur le 25 que compte cet organe délibérant ont voté ce jeudi pour le départ du gouverneur et de tout son gouvernement. Ce vote s'est déroulé en l'absence de Zoé Kabila Mwanzambala et des membres du gouvernement provincial. Il lui est reproché la mauvaise gestion de la province, le détournement des fonds et le manque de leadership. En Ituri, pendant ces temps, l'état des sièges est entré en vigueur ce jeudi. Le nouveau gouverneur militaire et son adjoint ont été nommés par le président Félix Tshisekedi Tshilombo en vue de restaurer la paix dans cette province en proie au conflit armé depuis 2017. Pour de nombreux observateurs, les défis sont énormes, notamment la collaboration entre les civils et les FRDC dans cette province où certains groupes armés ont une tendance communautaire. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac.
Dans son ordonnance publiée mardi, le chef de l'État a nommé un gouverneur militaire et un vice-gouverneur policier pour conduire les affaires de l'Ituri dont la population aspire depuis 3 ans à la paix. Selon plusieurs sources locales, les défis qui les attendent sont multiples. C'est d'abord la présence de plusieurs groupes armés qui sont actifs dans 4 territoires sur 5 que compte l'Ituri. Il s'agit de la Force patriotique intégrationniste du Congo FPIC, la CODECO, la milice d'autodéfense Zaïre, les rebelles des ADF et plusieurs groupes isquils des Mai Mai. Deuxième défi majeur, c'est la collaboration entre l'armée et les civils. Certains groupes armés à tendance communautaire bénéficient de la collaboration de certains habitants. Selon les acteurs de la société civile, certains miliciens, notamment de la CODECO, ont caché leurs armes et se dissimulent parmi la population. Ils se livrent déjà à des activités d'orpaillage dans des carrières minières. De nombreux habitants n'ont pas également confiance à l'armée, accusée de commettre plusieurs exactions contre les civils, ce qui risque de compliquer la tâche aux nouvelles autorités de la province. Il faut aussi signaler les problèmes d'infrastructure routière qui peut constituer un obstacle aux opérations militaires, ce qui nécessite des moyens conséquents pour imposer la paix dans cette province qui compte actuellement environ 2 millions de déplacés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'état de siège est également entré en vigueur ce jeudi au Nord Kivu. Cet état de siège est salué par certains habitants de Beni. Interrogés par Radio Okapi, ils promettent d'accompagner les nouveaux dirigeants. D'autres, par contre, doutent de l'efficacité du gouvernement militaire pour ramener la paix dans une région en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Leurs points de vue ont été recueillis par Guylaine Kassassia.
Que nous, peuple de Beni, nous sommes trop meurtris par la guerre. En tout cas, cette décision est salutaire. Notre devoir, tant que population, nous allons seulement fournir des informations.
Cette mesure, nous espérons, va nous apporter la paix que nous attendons depuis si longtemps.
Le chef de l'État a bien fait. Les gens qui ne veulent pas ça, peut-être ne savent pas la politique.
De ma part, moi, je n'apprécie pas. C'est comme si le gouvernement veut nous plonger dans des difficultés qu'on ne peut pas s'en sortir.
Mon impression est que c'est une bonne chose et nous pensons qu'en changeant les gouvernants, peut-être que nous aurons la paix car avec les militaires ou les policiers qu'on met en siège, j'espère que la paix va régner en Beni.
On est en train de regarder ce qui se passe. Après quelques jours, on va voir si le résultat sera absolu. Directement, on va juger l'état de siège.
Nous refusons cette mesure parce que les militaires, ils changent comme Elio devant les populations.
Normalement, cette nouvelle est bonne si du moins l'objectif est atteint. Nous, la population, nous allons toujours l'accompagner. Alors c'est à eux maintenant de bien travailler. travailler pour que qu'on puisse avoir quand même un changement total. L'opposition n'est pas quand même correcte si du moins on n'a pas encore vu les fruits.
Et puis l'ancien gouverneur du Nord Kivu appelle la population à soutenir les nouvelles autorités provinciales nommées par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Appel lancé en conférence de presse tenue à Goma. Karline Zanzou Kasivita invite la population à permettre aux autorités provinciales, militaires, nouvellement nommées par le chef de l'État, de restaurer la paix. Ces propos ont été recueillis par Denise Lukeso.
Nous allons continuer avec le même élan pour soutenir cette mesure du président de la République afin que les questions liées à l'insécurité soient une priorité de tout le monde. Je voudrais que les enfants du Nord Kivu puissent capitaliser ce moment et s'y permettre que le nouveau gouverneur militaire puisse capitaliser son mandat à la tête de la province pendant ce moment de temps de siège à contribuer à l'avènement de la paix. Toute la population du Nord Kivu veut avoir la paix. Toute la population de Beni veut voir les terroristes Adef Nalou être vaincus. C'est possible qu'avec le concours de la population. On ne peut pas faire la paix pour une population qui n'est pas mobilisée aussi à faire la paix. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois solliciter de l'ensemble de la population du Nord Kivu, surtout les jeunes, surtout ceux qui sont dans les groupes armés, de donner cette chance à la paix. La population, c'est un acteur important pour que l'armée et la police puissent réussir cette mission.
Karline Zanzou Kasivita demande également à la population du Nord Kivu de respecter les restrictions contenues dans l'ordonnance présidentielle. Quatre colonels des FARDC venus de Kinshasa et représentant les quatre communautés en conflit dans les hauts plateaux du Sud Kivu, les Babembe, les Banyamulenge, les Banyindou et les Bafuliru, ont entamé hier mercredi à Minembwe un dialogue de paix. Ce jeudi matin, ces officiers des FARDC ont rencontré la société civile au lendemain de l'échange avec les chefs des confessions religieuses. Objectif affiché, examiner des stratégies communes pour restaurer la paix et la stabilité sur les hauts plateau de Fizi et d'Ouvira. Le compte-rendu de Fiston Goma Mayabala.
Deux parmi les quatre officiers supérieurs qui ont conféré ce jeudi avec la société civile de Minembwe sont originaires de Fizi et d'Ouvira. Ils sont arrivés depuis deux jours dépêchés par l'état-major des FARDC depuis Kinshasa. D'après les porte-parole du secteur opérationnel Sokolade au sud du Sud Kivu, leur mission est de sensibiliser les membres des groupes armés locaux de la région des Hauts Plateaux à déposer les armes et à se rendre. La délégation a demandé à la société civile de soutenir le dialogue entre les communautés locales pour faciliter la cohésion sociale. De son côté, le président de la structure citoyenne Saint-Kaderou Vuzangoma a salué cette initiative de l'armée. Il a demandé que celle-ci manifeste davantage sa bonne foi d'accompagner les efforts des acteurs civils locaux. Pendant ce temps, les miliciens Maïmaï et les combattants Tuguaneo continuent de renforcer leur présence autour de la zone de Kipupu où des cas de pillage des vaches et des tirs sporadiques sont récurrents depuis le retrait de la MONUSCO il y a de cela deux semaines. Mardi dernier, un soldat des FARDC a été grièvement blessé à Kabingo à 15 km au sud de Minembwe après un affrontement contre les combattants présumés Tuguaneo. Les FARDC affirment que les combattants avaient tiré contre les troupes loyalistes et tenté de voler l'arme d'un soldat. D'Ouvira Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Revenons un instant en Nord Kivu pour cette autre nouvelle. En bref, l'administrateur du territoire de Lubero interdit la fabrication des armes de calibre 12 jusqu'à nouvel ordre. Richard Nyembo a instruit pour cela les services de sécurité de faire appliquer cette décision. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été destitué à la suite d'une pétition qui le visait. Donatimbo indique que tout s'est passé dans l'illégalité. Coup de théâtre, lors de la séance plénière d'hier mercredi, trois des cinq signataires de pétition contre les autres membres du bureau de l'Assemblée provinciale les ont retirés tout simplement. À Lubumbashi, c'est une correspondance de Jean Gandou.
Plusieurs griefs étaient portés contre le rapporteur Donatimboge. C'est notamment le manque de respect vis-à-vis de ses collègues députés, la tentative de dédoublement de l'Union sacrée, l'usurpation de pouvoir, les détournements des fonds alloués aux membres de son cabinet et autres. Sur 18 députés présents, 13 ont voté pour son départ et 5 se sont opposés. À noter que les votes s'est passé en l'absence de l'incriminé, qui n'a donc pas présenté ses moyens de défense. Ainsi, Donatimboge n'est plus le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Interrogé sur sa déchéance, le rapporteur sortant a indiqué que tout s'est passé dans l'illégalité, car le président du bureau, qui a convoqué la plénière au cours de laquelle il a été évincé, était lui-même visé par une pétition, tout comme les autres membres membres du bureau. À ce sujet, nous apprenons que 3 des 5 signataires des pétitions contre les autres membres du bureau les ont retirés. Conséquence, le bureau dirigé par Louis Tumbo Mataïla reste en fonction à l'exception du rapporteur Dona Chimboge. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On en vient maintenant à l'économie. Comment rendre l'Office congolais de contrôle OCC plus compétitif dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine et du retour de la RDC dans le marché américain avec la GOA? Cette question était au menu d'une rencontre tenue hier ici à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur et le conseil d'administration de l'OCC. Jean-Lucien Boussa affirme que le gouvernement congolais s'est engagé à élever le commerce et l'industrie en facteur majeur du développement économique. C'est notamment par l'amélioration de l'offre commerciale, la conformité de produits et des systèmes de production aux standards internationaux et régionaux. Ces propos ont été recueillis par Alain Rongmouchige.
L'Office congolais du contrôle est au cœur des grands enjeux aujourd'hui. Vos produits ne sont pas normés, vos produits ne sont pas de meilleure qualité, mais vous n'êtes pas compétitif sur le marché international. Et donc, pour ces mandats, j'ai tenu à placer l'OCC au cœur de cet enjeu économique, national, africain et mondial. C'est pour cette raison que j'ai décidé de nous mettre devant nos responsabilités. En tant que ministre, en tant que conseil d'administration de l'OCC, mais aussi en tant que OCC tout court. Déjà, il faut avouer que le travail qui a toujours été fait depuis 4 ans a permis des résultats exceptionnels. Mais nous voulons que le travail se fasse encore mieux dans l'intérêt du peuple congolais. La qualité des produits intérieurs, la qualité des produits importés est un gage de sécurité et de santé publique. Aujourd'hui, donc, je suis venu convenir avec l'OCC des axes prioritaires qui sont entre autres le renforcement des capacités des laboratoires, la modernisation des laboratoires, la construction d'autres laboratoires, l'amélioration de la productivité du personnel. Ça implique deux choses, formation continue, mais aussi préservation du pouvoir d'achat de ces personnels.
Dans l'actualité, il y a également la rareté de certains produits de la société Bralima sur les marchés ici à Kinshasa. Il s'agit ici de boissons gazeuses en bouteilles plastiques. Seul le coca est visible actuellement. Par contre, ces boissons sont entrées dans des rayons de certains supermarchés de la capitale, mais présentées en bouteille. Pour beaucoup, ce serait une mutation de l'entreprise vers l'abandon du plastique. Un reportage de Christelle Fritti rendu ici par Kiria Ambatia.
Depuis quelques semaines, seul le coca en plastique est visible aussi bien dans les dépôts de boissons que dans le supermarché de la ville. Sprite, Fanta ou Vitalo en plastique ont disparu. Ces propriétaires de dépôts expriment leurs préoccupations et celles de leurs clients. Ils accusent la Bralima de ne pas communiquer assez à ces sujets.
Le problème, c'est à l'usine. Ça ne sort presque plus. Tu peux faire le tour des dépôts sans en trouver. Ces jours-ci, seuls le coca sont sortis de l'usine. On ne comprend pas si c'est la faillite ou quoi. Vous voyez dans cette glacière, il n'y a que les bouteilles en verre. Le reste est introuvable.
Entre-temps, à la cité, ces boissons introuvables en plastique, on peut s'en procurer en bouteille en verre. Dans certains supermarchés, le Fanta, Sprite et Vitalo en bouteille en verre ont aussi fait leur entrée dans le rayon. Ce qui fait dire à certains Quinois que c'est une mutation de l'entreprise visant l'abandon du plastique, comme le recommandent les autorités de la ville et du pays. Du côté de la Bralima, on dit ne pas vouloir communiquer à ces sujets, mais des sources sur place nous ont affirmé que l'entreprise aurait connu quelques problèmes avec la matière première de ses emballages, mais que tout était en train d'être réglé.
Kiria Ambatia sur Radio Okapi. Et puis, le coronavirus gagne progressivement du terrain dans la province du Congo central. La 28e zone de santé sur les 31 vient d'être touchée par cette pandémie. C'est ce qu'a révélé le bulletin épidémiologique hebdomadaire de la coordination provinciale de la riposte. Ce document préconise une surveillance épidémiologique dans les 3 zones de santé non encore touchées par la maladie. À Matadi, Nana Plurich Mambou.
Parmi les 31 zones de santé que compte la province, la zone de santé de Mankembo dans les territoires de Luozi est la 21e à être touchée par la pandémie à coronavirus, après celle de Gombe-Matadi dans les territoires de Mbanzangungu. Un cas confirmé de la COVID-19 y a été enregistré dans la semaine du 26 au 2 mai, renseigne le bulletin épidémiologique de la coordination provinciale de la riposte. Dans la même semaine, la zone de santé de Matadi a aussi notifié 3 cas. 3 zones de santé sont non encore touchées par la COVID. Il s'agit de celles de Kibundi, Ngidinga et Kwimba. Trois malades en hospitalisation dans les centres de traitement COVID-19 de la zone de santé de Matadi ont regagné leur domicile au courant de la même semaine du 26 au 2 mai. Pour l'heure, à travers la province, 23 malades sont pris en charge à domicile. Cette semaine, 11 voyageurs ont été testés positifs au marché transfrontalier de Loufou. Le cumul actuel des cas COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 1733. Le nombre de personnes guéries est de 1597 et 106 décès sont enregistrés. Signalons que les activités de la vaccination contre la COVID-19 seront lancées ce 12 mai au Congo central dans 6 zones de santé, dont celles de Matadi, Mwanda, Boma, Mbanzangungu, Kimpese et Kisantu. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Nigeria, les 39 étudiants kidnappés au mois de mars dernier ont été libérés. Ils avaient été enlevés dans leur université au nord-ouest du pays, dans la ville de Kaduna. Critiqué par son incapacité à enrayer au plus vite les attaques et les enlèvements de masse, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est félicité de l'issue heureuse de cette démarche.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le directeur d'exploitation de la SNCC, Marc Manyanga, annonce qu'une partie de matériel destiné à la construction de l'aéroport de Bipemba Mbujimayi est en route vers Mweneditu. Il affirme également que le comité de gestion est déterminé à évacuer tous les 34 wagons, y compris les matériels d'adduction d'eau potable pour Mbujimayi. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Marc Manyanga, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les matériels à destination de l'aéroport de Bipemba Mbujimayi traînent toujours dans les installations de la SNCC?
Pour être éclairé sur la situation, je vous rappelle qu'on a tenu même une réunion avec les responsables de la société qui est en charge de ces transports, la société CIGC Jiangxi. Nous avons fait le point. Effectivement, les matériels qui ont entreposé chez nous, ça correspond plus ou moins à 34 wagons. La société a payé pour 2 wagons que nous avons déjà transportés pour Mweneditu. Il vient de payer pour 50 000 $ et nous avons aussi transporté. Les marchandises sont pratiquement dans les parages de Mweneditu, hein, les derniers trains partis de Kamina ce matin pour Kanyama. Nous avons donc demandé à cette entreprise qu'elle puisse payer les soldes qui étaient évalués à ce moment-là autour de 206 000 $. Et dès qu'on paye les soldes, en tout cas, je peux vous assurer que M. le directeur général est déterminé à faire arriver ce matériel-là le plus rapidement possible.
Et donc, ce n'est pas la province du Kasaï oriental qui va payer, c'est plutôt quelqu'un d'autre?
Non, nous avons plutôt un logisticien, hein, c'est CGIC Jiangxi. C'est lui qui est en charge de cette opération.
Il y en a qui estiment que ces matériels traînent dans les installations de la SNCC par manque de wagons, mais éventuellement aussi des locomotives qui ne savent pas bien tracter.
Bien sûr que la SNCC a des contraintes, hein, comme tout chemin de fer de l'Afrique subsaharienne, et les efforts de notre DG sont assez visibles pour améliorer cette contrainte, surtout liée à la traction. Mais il y a certaines priorités auxquelles la direction générale accorde une attention particulière. C'est notamment cette histoire de l'aéroport de Bipemba, c'est notamment la desserte en eau potable de Mbujimayi. Et pour ce qui est de Bipemba, je peux vous assurer que le problème n'est pas du côté de la SNCC, il est plutôt du côté du logisticien, comme il l'a reconnu lui-même au cours de la dernière réunion que nous avons tenue avec lui.
Qu'en est-il de matériel d'adduction d'eau destiné à la ville de Mbujimayi qui traînerait encore dans les installations de la SNCC à Lubumbashi?
Ça, c'est une opération que nous sommes en train de suivre. On a des lots très importants. Le premier lot est arrivé à Luao et il comporte 13 wagons et nous avons prévu un train bloc direct d'Ilolo Mweneditu vers Mbujimayi. Le deuxième lot, c'est celui de 12 wagons au niveau de notre terminal conteneur. Jusque-là, les clients avaient payé pour un wagon. Ils ont dit qu'on attend qu'ils complètent les 12 autres. Si les informations à notre possession sont vraies, parce qu'on dit qu'un paiement a été effectué hier, si nous avons la confirmation aujourd'hui, on met à leur disposition aussi les 11 wagons restants. Je peux vous assurer qu'au début de la semaine prochaine, ce deuxième lot sera à Mweneditu Mbujimayi et vous aurez le temps d'apprécier et d'évaluer.
Mais il y a une autre réalité. Des clients qui se plaignent, ils déposent leurs marchandises dans les entrepôts de la SNCC, marchandises qui n'arrivent toujours pas à destination et qui commencent à pourrir. Pourquoi cet état des choses?
Non, c'est vite dit, Monsieur Jean Gandou. Je vous donne par exemple un exemple qui montre quand même que les efforts de la SNCC sont visibles. Si vous prenez du 1er avril au 4 mai, on a déjà transporté et fait arriver à Mweneditu 197 wagons. Et au moment où je vous parle, il y a 29 wagons pour Mweneditu, ce qui nous fera plus ou moins 226 wagons. 226 wagons, c'est plus ou moins 10 000 tonnes. Donc, en sus des efforts que nous devons faire, des contraintes que nous avons, et le DG ne s'est jamais voilé la face là où il y a des défis, parce que maintenant nous sommes sur les défis sur le moyen de traction, en dépit des tout ça, il y a quand même des points comme Mweneditu qui sont servis et les efforts sont en train de se faire. Nous sommes nous-mêmes souvent en contact avec nos clients justement pour essayer de répondre à leurs préoccupations.
Est-il vrai qu'il y a des marchandises qui ont pourri dans vos installations?
La pourriture de marchandises suppose des PV. C'est un litige. En tout cas, à date, je n'ai pas une réclamation pareille. Mais s'il arrivait qu'il y ait une réclamation qui peut être dit à la SNCC ou qui peut être dit dans les conditions de conditionnement, c'est un litige qu'on analyse et la SNCC a toujours indemnisé.
Et alors, pour terminer, M. Manyanga, c'est combien de tonnes au total que vous devez transporter d'ici jusqu'au Monedito?
Je ne voudrais pas vous plonger dans le domaine de la spéculation, hein, parce que la spéculation suppose que quelqu'un vous dise « on n'a pas transporté ma marchandise ». Mais pour transporter une marchandise, il faut un contrat de transport. Et le contrat de transport est conclu lorsqu'on a payé pour le frais de transport. Donc, pour l'instant, vous n'avez qu'à visiter les charges restantes dans nos gares. On a pratiquement plus de wagons chargés qu'à Sakania, à Lubumbashi, à Likasi, à Tenke. Nous avons des wagons à évacuer à Luena, à Kamina et à Ilebo. Et je peux vous assurer que dans moins de 10 jours, toutes ces charges restantes qui sont là vont atteindre leur destination. Lorsqu'on va évacuer, il y en aura d'autres qui vont venir parce que les clients vont continuer à charger.
Marc Manyanga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, le directeur d'exploitation de la SNCC, Marc Manyanga, interrogé par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Irungmouchige. Ces nouvelles, vous pouvez les retrouver sur les différentes plateformes numériques de Radio Capi.